écoutez IDFM, il est 14h.
IDFM Radio Enguin, bienvenue, une nouvelle heure avec un nouvel agenda des villes, des illuminations géantes devant la gare de Cergy-Préfecture, des fleurs sauvages de 7 mètres de haut en métal coloré sur le parvis de la préfecture, des roseaux sur la place des Arts, mais aussi un grand lustre dans le parc François Mitterrand. Venez découvrir au sein du grand centre de Cergy jusqu'au 2 janvier 2019 une trentaine d'installations monumentales illuminant le quartier dans le cadre de la 4e édition des Lumières d'hiver en partenariat avec Silumine et le centre commercial des Trois Fontaines. Je vous emmène cette fois-ci à l'EMB qui vous propose l'événement Wanted, scène locale des artistes locaux en concert gratuit. L'événement aura lieu ce soir à 20h30 aux deux rues du président Georges Pompidou. L'EMB, c'est l'espace Michel Berger, la salle de concert de la commune de Sannois. Poursuivons cette fois-ci avec la commune de Cormeilles-en-Parisis. La ville et l'agglomération du Val-Parisis inaugurent la médiathèque L'Éclipse à 10h demain au 3 avenue de la Libération. L'ancien bâtiment de la Sécurité sociale a été entièrement réhabilité pour la somme de plus de 2 millions d'euros. Et pour refermer l'agenda des villes, direction la commune de Beauchamp, demain à 11h au pied d'un grand chêne. Rendez-vous avec ce conte raconté par Violaine Robert à la bibliothèque Joseph Kessel, entrée libre pour les enfants à partir de 3 ans. L'histoire se passe dans une forêt toute blanche, au pied d'un grand chêne, bien au chaud dans son lit. Une petite fourmi ne veut pas dormir. Si vous voulez en savoir davantage et vous inscrire pour cette séance de conte sur la commune de Beauchamp, direction le site de Beauchamp, tout simplement beauchamp.fr. C'était l'agenda des villes sur IDFM Radio Enguin.
Bonjour à tous, je suis Audrey Lamolie et je suis ravie de vous retrouver sur IDFM Radio Enguin dans l'émission La Parole aux Associations, une émission dédiée aux associations du Val d'Oise et à ceux qui les font vivre. Cette semaine, nous recevons l'association ISEM, association créée il y a une dizaine d'années et qui signifie interagir pour le corps, le cœur, l'esprit du malade du cancer et son entourage. Elle se donne pour objectif d'améliorer le bien-être physique des malades du cancer à l'hôpital d'Argenteuil, de les soutenir moralement et psychologiquement, ainsi que leurs familles en leur apportant une aide au quotidien. L'association active ainsi un réseau d'intervenants pluridisciplinaires, des sophrologues, des musicothérapeutes, des socio-esthéticiennes, mais aussi des bénévoles actifs pour apporter aux malades atteints du cancer et à leur entourage de l'écoute, du partage, du réconfort et contribuer ainsi à les sortir de l'isolement dans lequel ils sont contraints. Tous ces services sont gratuits, non médicaux, non commerciaux. Ils visent à soulager les patients lors de leur prise en charge médicale et de leur confrontation à la maladie. ISEM, c'est l'équilibre entre le cœur et le corps, c'est l'estime de soi, c'est de l'attention et beaucoup d'empathie, c'est de la force et de l'encouragement. C'est également 700 malades accompagnés, une équipe de professionnels et de bénévoles engagés pour et avec l'autre, en étroit lien, avec tout un réseau partenarial allant du personnel médical aux familles des personnes malades. Alors pour nous parler de cette association, j'accueille cet après-midi Nadia Nafti et Inda Hamza, respectivement présidente et socio-esthéticienne d'ISEM. Bienvenue dans l'émission.
Merci Audrey.
Au sommaire de cette émission, je vous propose d'abord d'en savoir un peu plus sur nos deux invités dans la rubrique Portrait d'engagé. Puis Nadia et Inda nous présenteront plus concrètement comment fonctionne l'association et ce qu'il s'y passe concrètement. Et en dernière partie d'émission, nous reviendrons sur un aspect un peu plus financier pour évoquer ensemble les besoins et les réalités de l'association. Alors tout d'abord, Nadia, Inda, je vous propose de faire votre portrait d'engagé pour mieux faire votre connaissance, si bien sûr vous en êtes d'accord.
Oui, bien sûr.
Super, alors c'est parti. Est-ce que d'abord vous pourriez nous présenter un peu qui vous êtes, votre parcours personnel, professionnel? Qui veut commencer?
Je peux commencer.
Nadia.
Bonjour à tous, merci Audrey. Je m'appelle Nadia Nafti et j'exerce le métier de sophrologue caïcédien. Je suis installée en cabinet à Enguin-les-Bains, sur cette ville. Et je reçois dans mon cabinet des enfants, des adolescents, des adultes pour tout type de problématiques. Je viens du monde de l'entreprise, il y a une quinzaine d'années, où je me suis formée ensuite à la sophrologie caïssédienne. Et je continue à me former, à me réactualiser à l'Académie de sophrologie caïssédienne de Paris. Voilà pour moi.
Et alors Inda ?
Bonjour à tous, je m'appelle Inda. Et moi, je suis socio-esthéticienne depuis 5 ans. J'interviens à l'hôpital d'Argenteuil aussi, au sein de l'association ISEM depuis 5 ans.
Et vous intervenez aussi à côté de votre intervention aussi, à l'hôpital d'Argenteuil. Je crois que vous intervenez aussi en tant que socio-esthéticienne dans d'autres structures médicales ou autres.
J'interviens aussi à titre personnel. À la fois, je contribue à des projets d'entreprise pour le bien-être des entreprises. Donc, j'ai pu faire participer à des événements dans le milieu pénitentiaire avec la mutuelle du ministère de la Justice. J'ai pu aussi faire des soins aussi de bien-être pour le personnel soignant dans des centres de rééducation, des différents centres médicaux, dans le social et le carcéral, en fait, la socio-esthétique. Et moi, je peux intervenir auprès des enfants, adolescents, personnes âgées, hommes, femmes. Mes soins s'adressent vraiment à toute personne, quelles que soient leurs difficultés sociales ou la maladie ou l'isolement.
Et alors Inda, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est socio-esthéticienne ? Est-ce qu'il y a un diplôme spécifique ?
Tout à fait, il y a des diplômes spécifiques. Souvent dans tous les diplômes, on doit d'abord faire des études de notre cursus en esthétique, donc que ce soit le CAP, le BTS. Et ensuite, on fait une spécialisation. Donc il y a soit des écoles privées, il y a le DU de socio-esthétique. Il y a différents DU maintenant, ça se développe. Donc moi, j'ai fait les DU de Pierre et Marie Curie, la faculté Pierre et Marie Curie. C'est une spécialisation
à Paris. Un an.
Oui, à Paris, oui. Donc les cours sont essentiellement à l'hôpital Tenon et une petite partie à l'hôpital Charlefoix. Et donc c'est une spécialisation. On doit d'abord maîtriser tout ce qui est soins esthétiques à la base pour être à l'aise pour tout ce qui est massage et tous nos soins. Et ensuite, dans la spécialisation, ça nous permet en fait de plus comprendre nos limites. Il y a beaucoup de psychologie parce que via le toucher, les soins qu'on fait quand même, on est proche de personnes fragiles. Donc, c'est très important de bien connaître tout ce qui est écoute active, d'être bienveillant, d'être délicat. Et de pouvoir aussi vraiment savoir de quelle manière stimuler la personne, la faire accepter aussi le soin, parce que souvent les gens pensent c'est bien, massage relaxant, c'est super, mais c'est pas si évident de s'ouvrir à ça quand on est très fragile. Et donc tout ça, ils nous l'apprennent dans la formation, aussi tout ce qui est hygiène, nos limites aussi de soins, pouvoir faire attention et savoir s'adapter aussi dans un travail en équipe. On apprend aussi, bien sûr, les différentes structures dans le social, le médical et le carcéral. Parce que, on atterrit, on est socio-esthéticienne, on atterrit dans différents endroits, dans différents environnements qu'on ne connaît pas. C'est l'inconnu pour nous tout le temps. Et c'est important qu'on connaisse un minimum pour s'adapter à chaque équipe et à chaque patient et chaque personne.
Et vous nous en direz un petit peu plus tout à l'heure sur vos missions de socio-esthéticienne à l'hôpital d'Argenteuil. Nadia, vous, je vous ai entendu dire, je suis sophrologue. Alors, excusez-moi pour le terme KAE. Ça veut dire quoi c'est quoi le mot exact ?
Qu'est-ce que c'est que ce mot ? Caïssédienne, pour le professeur Caïssédo, qui était neuropsychiatre. Et c'est lui, dans les années 60, qui a mis au point la sophrologie et qui l'a fait évoluer au fur et à mesure des besoins de la sophrologie. Et dans mon parcours, donc, j'exerce là en cabinet, mais j'exerce aussi en entreprise, aussi, et à l'hôpital d'Argenteuil. Et donc, la sophrologie, c'est interagir sur le corps, le cœur et l'esprit. Donc, on est vraiment dans ce moment où on offre à la personne une présence, pour ressentir son corps autrement que dans la maladie, pour être vraiment sur ses acquis, pour ouvrir une porte, hein, une fenêtre, pour sortir un moment de la maladie et pouvoir se réapproprier l'estime de soi, la confiance en soi. Tous ces différents paramètres qui aident la personne à se relever, à se redresser, à être dans une dignité, dans une verticalité d'esprit.
Et alors, pour être sophrologue, quelle formation il faut suivre ? Est-ce qu'il y en a plusieurs ? Est-ce qu'il y en
et
a
oui.
une seule ? Oui.
Et oui, il y en a plusieurs. Et moi, j'ai choisi justement la sophrologie caïcédienne, donc pour le professeur Caïcédo, et donc qui a été mise en place dans les années 60, qui a évolué. Pourquoi celle-ci ? Parce que c'est une sophrologie où on est sur des temps d'écoute, des temps de partage et dans une conscience active. Les personnes, pour amener les personnes dans cette autonomie, dans la gestion de leurs émotions, dans la gestion de la maladie et du bien-être, du mieux-être.
Alors, toutes les deux, vous faites un métier qui est largement tourné vers les autres. Alors, ça vous vient d'où cette envie d'aider, de faire du bien aux autres ? Est-ce que vous savez l'identifier ? D'où ça vous vient ?
Mais en tout cas, pour finir sur la sophrologie caïcédienne, c'est un entraînement du corps et de l'esprit pour apprendre à développer des ressources, pour apprendre à développer le calme, la sérénité, à prendre du recul face aux aléas de la vie. Elle aide à développer des capacités dans la gestion du stress et des émotions négatives. Elle renforce les structures positives, les capacités, les valeurs qui vont permettre de renforcer l'être. Lorsque nous traversons une tempête, le bateau tank ne va pas couler. Voilà. Je vais peut-être laisser la parole à Inda.
D'où ça vous vient alors ouais. cette envie de travailler avec l'autre ? Et puis, est-ce que c'est depuis toute petite, votre éducation ? Ouais. Est-ce que c'est un élément déclencheur un jour ?
Je dirais à la fois toute petite et un élément déclencheur pour vraiment comprendre quel métier je voulais faire. Depuis petite, donc je voulais vraiment faire quelque chose où je fais du soin, j'apporte du soin aux gens. Et je sentais que je pouvais supporter beaucoup de choses du milieu médical aussi. Et donc j'étais à la base, donc je pensais vouloir être un médecin. Et j'ai commencé par les études de médecine. Et suite à différents bénévolats que j'ai pu faire, alors que je n'étais pas du tout quelqu'un qui connaissait ce que c'est les soins esthétiques. Je n'étais jamais partie chez une esthéticienne. Je ne m'intéressais pas beaucoup au maquillage, très peu. Mais suite à des petites retouches comme ça, une personne handicapée, et en fait, il s'est passé quelque chose de tellement incroyable au sein de sa famille, le regard du mari, des enfants, le fait qu'elle s'est laissée du coup, elle s'est laissée accepter les compliments de sa famille, ses câlins. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe de fou derrière ces petits gestes que moi-même je banalisais. Souvent, il y a beaucoup d'idées reçues par rapport à l'esthétique comme quelque chose plutôt du superficiel, tout ce qui est soins esthétiques. Et en fait, je me suis dit, ça m'a vraiment beaucoup travaillé dans l'esprit et j'ai senti qu'il y a quelque chose de profond, quelque chose qui me faisait vibrer et il fallait que je fasse un métier. Je pensais donc créer le métier de socio-esthéticienne. Je ne savais pas qu'il existait et je me suis lancée dans des études d'esthétique. Pour à la fois vivre, travailler. Je me suis dit, je peux être dans les labos, différents domaines. Mais je vais faire quelque chose. Et au final, j'ai eu la chance de savoir que c'est un métier qui existe déjà depuis plus que 30 ans.
Bonne nouvelle,
et
du
oui,
coup.
En plus, oui. Il n'y avait que des écoles en plus privées, comme le CODES, une des écoles qui a bien développé ce métier, une école pionnière. Et j'ai eu la chance, moi, selon mes moyens, il faut aller à Tours. C'est pour faire ce cursus. Et j'ai eu de la chance en plus de savoir qu'il y a le DU Pierre et Marie Curie et j'ai pu faire partie de leur deuxième session. Donc c'était possible en plus d'étudier en même temps que le travail et j'étais vraiment contente de découvrir. Des fois on imagine que on apprécie un métier, mais quand on l'essaye vraiment et on le vit, c'est juste incroyable, voilà.
Et alors vous, Nadia, est-ce que vous vous rappelez pourquoi vous avez eu envie d'être un moment sophrologue ?
Oui, je me souviens bien. En fait, comme Inda, petite, j'avais le goût d'aider les personnes. En fait, j'avais envie de me diriger vers vers l'hôpital, vers un métier de l'hôpital. Mais à l'époque, je n'avais pas assez confiance en moi. Donc, je me suis dirigée vers une autre voie. Et il y a à peu près une quinzaine d'années, j'ai eu une maladie grave, autre que le cancer, et qui m'a amenée à faire des allers-retours à l'hôpital. Et j'ai pu constater, en fait, qu'on pouvait faire quelque chose pour aider les personnes malades à l'hôpital. Que l'après-midi, il n'y avait pas de visite, il n'y avait personne. Moi-même, lorsque je sortais de l'hôpital, j'y retournais en tant que... j'avais fait connaissance avec ma compagne de chambre et je retournais la voir parce que j'avais eu la chance de sortir plus tôt. Voilà, des petits exemples comme ça. Et donc, j'ai rencontré la personne, la présidente qui avait créé ISEM à l'époque, Janine Noirjean. Et donc là, j'ai perçu cette idée, cette envie de continuer, d'être plus concrète dans l'aide, d'avoir un support, une formation pour aider les personnes à l'hôpital.
Alors aujourd'hui, vous êtes présidente depuis peu de l'association.
Et oui.
Alors qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie de devenir présidente de cette association ?
Bien d'abord, je suis bénévole de cette association depuis à peu près une dizaine d'années. J'ai occupé différents postes. Je suis allée dans les chambres des malades en tant que bénévole de support avec de la lecture. Je me souviens que je choisissais avec soin des petits poèmes, on appelle ça des haïkus.
C'est japonais.
Oui, exactement, qui font trois lignes, mais qui font mouche et qui amènent un sourire, qui amènent une fenêtre ouverte vers l'extérieur. On sort de la chambre et puis on s'imagine ailleurs. Et donc, petit à petit, comme ça, je suis venue à expérimenter plusieurs postes. Après, j'ai aidé au niveau administratif, dans la demande de subventions, les dossiers assez complexes à mettre en œuvre, différents postes. Et petit à petit, je suis venue à me dire qu'avec mon bagage professionnel, qui vient du monde de l'entreprise, dans la gestion de projet, avec la formation de sophrologue, avec ce regard sur le malade, sur l'esprit, le corps et le cœur, avec cette bienveillance que je pouvais prendre cette présidence de cette belle association du cœur.
Et Inda, vous avez connu ISEM comment ?
J'ai connu ISEM lors de mon stage durant le DU, en fait. Et j'ai eu de la chance d'être en plus vraiment bien accompagnée par celle qui était mon maître de stage et maintenant ma collègue Véronique Maignan, qui est socio-esthéticienne à l'association ISEM depuis une dizaine d'années. Et donc, je l'ai connue lors de mon stage obligatoire pendant mon DU de socio-esthéticienne.
Donc, pendant vos études ?
Oui, pendant mes études. Ouais. Et j'ai eu de la chance, à peine le cursus est fini, ils m'ont proposé d'intégrer l'association.
Et qu'est-ce qui vous a particulièrement plu dans cette association ?
Ce qui m'avait plu, alors pourtant je suis allée avec beaucoup d'angoisse et de peur, parce que moi-même, même lors des cours, quand j'entendais le mot cancer, je pleurais. J'ai perdu des personnes très proches de cette maladie. Et voilà, j'avais toutes mes angoisses par rapport à cette maladie. Et au final, quand je suis arrivée à l'hôpital... En plus, j'avais fait le choix, comme je vous ai dit, de médecine. J'ai dévié pour une autre approche différente du patient. Et là, j'ai vraiment découvert quelque chose de tellement d'incroyable qui se passe durant le soin. Toujours des surprises de la part des patients. Un échange tellement riche qu'au final, souvent aussi, il y a des personnes qui pensent qu'être à l'hôpital, ça va être que difficile pour nous. Mais l'échange est tellement riche. Et même les patients nous aident. Nous, on leur apporte beaucoup.
Exactement.
Et c'est réciproque, oui. Parce qu'ils ne sont pas tous dans le même état le même jour. On va partager des rires, comme on va partager, oui, des larmes. Et on va partager différents moments, mais c'est tellement riche. Il y en a qui les voient tellement dépasser ces épreuves. Et on se sent vraiment, on est au cœur de la vie, avec les belles choses. Et dans ces difficultés, on peut vivre des belles choses. Et voilà.
Et c'est la force de la singularité des rencontres. Hein.
Exactement.
On peut rencontrer 10 fois la même personne. Si on apporte de l'attention à cette rencontre-là, on ne peut pas prévoir ce qui va s'y dire, s'y échanger.
C'est vraiment magique. Plusieurs fois, c'est magique et même nous, on s'y attend plus.
Et c'est l'écoute, la présence. C'est de regarder cette personne pas comme un malade, mais comme une personne digne, voilà, qui a une embûche dans sa vie et qui est présente. Dans toute sa singularité, comme tu as dit, Audrey.
Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir bien voulu nous en dire un peu plus sur vous. Je vous propose de poursuivre notre conversation et de découvrir plus concrètement ce que fait l'association ISEM juste après avoir écouté George Ezra, Shotgun.
Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar, I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We're south of the equator, navigator. Gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We got two in the front, two in the back, sailing along. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone, a someone, a someone.
Vous êtes toujours sur IDFM Radio Anguin dans l'émission La Parole aux Associations où nous recevons cet après-midi Nadia Nafti, présidente de l'association ISEM, et Inda Hamza, socio-esthéticienne. Alors Nadia, est-ce que vous pourriez tout d'abord nous présenter les différentes activités de l'association ?
Bien sûr. Alors ISEM, donc c'est I-2-C-E-M-E, ce qui veut dire interagir pour le corps, le cœur, l'esprit du malade du cancer et de son entourage. L'objectif de cette association, c'est d'améliorer le bien-être des malades du cancer à l'hôpital d'Argenteuil. Alors, nous sommes une équipe pluridisciplinaire, une équipe avec du savoir-être, du savoir-faire, et nous pratiquons des soins dits de support entièrement gratuits, entièrement pris en charge par ISEM, par notre association. Dans cette équipe, il y a différents thérapeutes formés avec une formation solide et des bénévoles de support. Alors, nous avons deux socio-esthéticiennes, en la personne de Hamza ici présente et puis aussi de Véronique Ménian. Nous avons une musicothérapeute qui est Cathy Boussard. Nous avons une sophrologue et des bénévoles de support qui vont dans les chambres des malades avec un support, c'est-à-dire soit de la lecture, soit un jeu, avec toujours un support pour y amener de la présence. Nous avons aussi une psychologue en la personne de Sylvie Brenner. Voilà, et un staff administratif, donc moi-même, et puis Annette Homeus, qui est secrétaire de l'association. Voilà pour l'équipe. Donc ISEM donc interagit. Nous sommes inclus dans l'hôpital, nous sommes accueillis dans l'hôpital et nous allons dans les chambres des malades pour apporter du bien-être, du mieux-être, une présence.
Donc vous travaillez en étroit lien avec le personnel médical, les infirmières,
exactement,
les médecins.
Exactement. Alors l'équipe médicale est formidable. Vraiment, ils sont d'un support énorme et nous sommes inclus dans cette équipe médicale.
Alors comment ça se passe? Vous intervenez dans les chambres? En collectif, en individuel,
En individuel, oui. En fait, nous arrivons le matin et là, le personnel soignant nous dit dans quelle chambre aller, quel malade peut être vu et nous y allons. Donc ça peut être Inda ou Véronique ou Cathy ou moi-même ou les bénévoles aussi de support avec un livre, un jeu, autre chose, une présence aussi.
Il y a une régularité où vous voyez des personnes pendant un mois tous les jours ou une fois de temps en temps?
C'est vrai qu'il y a des deux en fait. Il y a des patients qu'on va pouvoir voir régulièrement, ceux qui sont dans des hospitalisations très longues et dans un parcours beaucoup plus lourd. Donc des personnes en soins palliatifs ou en hématologie, on arrive à les voir régulièrement. Mais il y a des personnes aussi, quand c'est l'hôpital de jour, il y a beaucoup de patients. Et ça change énormément tous les jours. Il y a beaucoup de patients. Et du coup, certains, on les voit une fois. Certains, on va les voir 10 fois. C'est différent selon les services.
Selon la situation aussi.
La situation aussi, oui.
Est-ce que ce sont les patients qui demandent à vous rencontrer ou est-ce que c'est proposé? Est-ce que parfois le patient n'a pas très envie et vous essayez quand même?
C'est les deux. Alors, le but premier, nous, quand on est présent, en fait, c'est vraiment d'aller vers les gens, pas que la personne qui demande. C'est d'aller chercher à les stimuler, à les encourager pour aller aussi vers ce type de soins, à souffrir et à accepter ce toucher qui est différent, qui est bienveillant, cette écoute et un autre moment, parce que c'est vraiment pas évident. Donc, mais aussi, le patient qui a envie d'un soin, bien sûr, il peut le dire à l'équipe médicale. On leur laisse aussi les dépliants de l'association. Ils peuvent appeler directement sur le numéro de l'association et nous dire que souhaitent tel soin, voilà, tel jour. Et on essaye de répondre à la demande aussi des patients.
Et ce soin renforce, enfin tous ces soins renforcent l'estime de soi. Et ça, c'est très important, la confiance en soi, pour pouvoir se relever et continuer à avancer.
Et alors, vous êtes à la fois, vous mobilisez des socio-esthéticiennes, des visiteurs aidants, une musicothérapeute, des sophrologues. C'est pour essayer de couvrir un maximum, d'intervenir au plus juste selon la situation.
Exactement.
Et le besoin du patient. Alors, par exemple, les visiteurs aidants, dont vous l'avez un peu expliqué, Nadia, sont des bénévoles qui viennent... à la demande ou qui viennent le matin en même temps que vous?
Alors plutôt l'après-midi, hein, parce que le matin c'est plutôt réservé aux soins du personnel soignant, plutôt l'après-midi. Et c'est en accord avec le bénévole de support dans une conversation où cette personne nous dit combien de temps elle est disponible, si c'est une fois par semaine, si c'est tous les 15 jours ou tous les 3 semaines. En tout cas, nous demandons une régularité. Et donc la personne arrive par exemple à 14h, elle se présente auprès de l'équipe soignante, hein, ISEM l'aura au préalable présenté, et donc on lui donne les chambres des malades à visiter.
Et alors ils font de la lecture
Voilà, exactement, un support, avec soit la lecture, soit un livre avec des images ou un autre support, pour avoir une présence et un support. Et dans cet échange, comme disait tout à l'heure Inda, c'est vraiment mutuel. Parce que nous offrons une porte, une fenêtre ouverte pour sortir de l'hôpital à ces personnes-là, soit par un soin, par le toucher, soit par un dialogue, soit par une présence. Des fois, il n'y a pas besoin de parler. Hein. C'est un regard, c'est une présence, c'est être là. Être là pour recevoir ce que la personne malade aura à dire. À certains moments, il y a des choses difficiles à dire que la personne malade ne peut pas dire à sa famille, à ses proches. Il aurait peur de leur faire du mal. Alors que nous sommes là, nous sommes formés pour ça. Et donc, nous pouvons recevoir.
Et il y a combien de bénévoles aidants actifs dans votre association?
Alors, il y a les bénévoles donc, que l'on appelle de support. À l'heure actuelle, il y en a 3.
Donc, ils viennent régulièrement à l'hôpital, dans les chambres des patients.
Exactement, chaque semaine. Tout en sachant que sur les 3 personnes, il y a donc Nicole Delmas qui intervient depuis longtemps hein, dans notre association, plus de 10 ans, et qui là prend un petit peu de recul. Elle a des petits-enfants à s'occuper. Il y en a plusieurs. C'est une belle
charge.
Donc,
elle cherche
aussi
la relève.
Exactement.
Vous les recrutez, comment ces bénévoles? Est-ce qu'il y a un peu un... des critères que vous validez avant de les envoyer comme ça à l'hôpital? Est-ce qu'il y a une petite formation avant?
Oui, bien sûr. Hein, on n'envoie pas comme ça la personne directement. Il y a plusieurs rendez-vous. Donc, il y a déjà le mien. On fait connaissance. J'explique ce qu'est l'association, ce que l'on y fait, l'équipe. Et puis, donc la personne va expliquer aussi pourquoi elle a envie d'être bénévole de lecture, de support à l'hôpital. Il y a un échange entre nous. Une présence, toujours. Et puis, après, il y a un psy qui voit la personne. Et puis, c'est pareil, c'est dans un dialogue ouvert, mutuel. Et puis ensuite, nous avons Claude Gardin, qui est le responsable de l'équipe bénévole. C'est tout neuf, ça encore. Hein, et qui va recevoir cette personne et puis qui va discuter avec elle. Et nous allons pratiquer une formation en interne. C'est-à-dire notre expérience, l'expérience des personnes aidantes qui y vont déjà à l'hôpital depuis un certain temps. Voilà, ça sera ça, cette formation en interne.
Et alors, à côté de ces visiteurs aidants, Nadia, est-ce que vous pouvez nous parler de la musicothérapeute que je ne connaissais pas avant d'échanger avec vous? Enfin, le métier.
Le métier de musicothérapeute. Donc, c'est Cathy Boussard, hein, qui est à l'association ISEM depuis 2010, il me semble. Elle est professeure de musique au conservatoire, à côté de cela. Et donc, la musicothérapie, en fait, il y a la musicothérapie, il y a les percussions, il y a active et puis réceptive. Active, c'est... on engage la personne malade à, dans l'expression de soi, dans le développement de la confiance, être acteur dans cet échange de musicothérapie avec des percussions, vibrations, avec la voix, des chants. Et puis, il y a aussi la réceptive, c'est-à-dire que là, le patient, ça lui permet d'exprimer son ressenti. Il écoute une musique douce qui va lui permettre d'exprimer, de libérer la parole. Ensuite, il y a un temps d'échange avec la musicothérapie, PEUT, qui s'inscrit dans un champ de psychothérapie, dans les soins palliatifs et oncologie, parce que nous intervenons aussi en soins palliatifs.
Donc c'est vraiment la musique qui a un rôle d'accompagnatrice de
un
la
autre
douleur
support,
aussi.
Un autre support, exactement.
Et elle a différents supports en plus. Il ne faut pas imaginer juste la musique, mettre une musique ou chanter. Vraiment, elle a différents instruments, comme elle a dit Nadia, la percussion. Et en fait, même pour une personne qui ne s'exprime plus, hein, on ne va pas voir qu'un patient qui peut parler ou qui peut entendre. Ça peut être une personne qui ne peut plus s'exprimer. En fait, elle a vraiment des instruments où ça permet, même le fait de les poser sur le corps de la personne, bien sûr, à des endroits avec beaucoup de délicatesse. Elle sait vraiment bien manier aussi son instrument. Et en fait, ça permet de ressentir, de vraiment stimuler des vibrations dans le corps de la personne. Et c'est quelque chose de très profond. Quoi. Et ça permet de stimuler différents sens aussi. Mmh. Du coup, elle intervient aussi sur le toucher, l'écoute.
Et puis de maintenir la relation, quoi, le contact, c'est ça, la
exactement.
Communication, comme
et
vous dites.
Et ça libère la parole.
Oui, ça libère vraiment. Mmh. Elle a réussi à ce que je me rappelle d'un patient qu'elle a eu qui n'a pas spécialement évoqué les faits qu'il était guitariste, qu'il faisait de la musique. Des fois, à la fin, ça dépend des personnes. Ils utilisent beaucoup ce qu'ils aimaient avant. Certains, ils s'isolent. Ils peuvent même plus écouter la musique. Et ça a permis qu'elle a pu aussi faire une action avec toute l'équipe de soins palliatifs, qui est vraiment formidable. Parce que vraiment, nos collègues, c'est pas juste qu'ils nous accueillent, ils nous renseignent. Mmh. On arrive à partager avec eux. Et les moments, ils sont à l'affût. Ils attendent déjà le retour. Certains patients, même quand le patient n'est pas du tout bien, ils attendent de savoir comment c'était. Et puis on partage entre nous si ça a été aussi difficile pour nous. On échange, on essaie de chercher des idées. Quand on a eu une personne qui vivait dans la rue à un moment, Tout le monde était solidaire pour lui trouver des vêtements. Il y a un monsieur, donc, pardon, je me suis évadée. Je reviens au monsieur qui faisait de la musique. Toute l'équipe, soins palliatifs, ils ont pu contribuer pour lui acheter, pardon, lui acheter une guitare. Et il a pu jouer à nouveau à la guitare alors qu'il était en soins palliatifs. Elle a pu aussi permettre à une patiente, je me rappelle en hémato, il y a quelques années, qui a même pu enregistrer un petit CD avec de la musique. Elle a offert ça à son mari, alors que c'était vraiment très, très loin à imaginer que cette patiente pouvait faire cela. Donc, des fois, ça va à vraiment des bons souvenirs qu'ils gardent les patients et qui les aident dans leur parcours.
Et alors justement, Inda, puisque vous avez le micro, votre métier de socio-esthéticienne, concrètement, vous entrez dans la chambre et qu'est-ce qui se passe ?
Alors oui, le métier de socio-esthéticienne, souvent aussi déjà beaucoup de personnes se posent beaucoup de questions sur le mot pourquoi socio et pourquoi esthétique. C'est un métier, comme j'ai dit déjà, qui s'adresse à des personnes qui sont malades, comme des personnes qui ont des fragilités psychologiques. Ça peut être le milieu social, carcéral et médical. Et donc socio parce que le mot socio est assez aussi riche. C'est pas spécialement le monde social, c'est le fait aussi qu'on aide les patients dans la communication, les stimuler pour à nouveau être bien dans leur corps, se sentir à l'aise pour communiquer avec les autres. Parce que quand on n'est pas bien dans notre corps, dans notre peau, inconsciemment, avec le temps, on s'isole de communiquer. C'est plus difficile si on doit reprendre un travail, c'est plus difficile au sein de la famille. C'est plusieurs situations qui deviennent difficiles quand on n'est pas bien dans notre peau, quoi, ou qu'on ne se reconnaît plus. Donc, moi, quand j'arrive concrètement dans la chambre, alors le métier démarre d'ailleurs de ce point-là. L'arrivée dans la chambre, c'est déjà un point important parce qu'on toque, on donne le choix à la personne d'accepter ou pas le soin. Donc, on se présente et s'ils acceptent, on leur fait le soin qui est choisi. Et s'ils refusent, souvent, on apporte un moment déjà d'écoute et on essaye quand même d'aller vers l'acceptation du soin. Pour
déjà, vous les informez que vous êtes là. Donc, et si oui. jamais et aussi, l'envie... ouais. Ils avaient envie de vous rencontrer une autre oui. fois, un autre moment, on n'est plus disposé aussi, ouais. Dans sa tête aussi, hein, de faire appel à vous. J'imagine que les crèmes, le maquillage, est-ce que c'est un maquillage adapté aux peaux sensibles des patients de l'hôpital ?
Exactement, c'est bien sûr, ça c'est lors de la formation, on apprend tout ce qui est produit dermocosmétique, on peut utiliser que du dermocosmétique, surtout en oncologie. On a aussi différents soins. On a de la chance, grâce à nous, à notre mécène L'Oréal, qui nous donne énormément. Ils sont très généreux en produits. On a des produits adaptés comme les produits La Roche-Posay. Et chaque année, ils nous donnent différents produits. Et en fait, on a même des produits ciblés pour certains effets secondaires de chimiothérapie.
C'est facile à trouver dans le commerce, ce type
dans
de produit ?
Dans toutes les pharmacies, oui. On trouve facilement, dans des parapharmacies. C'est de plus en plus accessible. Il y a du choix de prix maintenant pour les patients aussi.
Oui. Nadia, oui, vous vouliez rajouter
Oui, d'ailleurs, en fait, j'aimerais parler de l'hôpital qui nous accueille. Hein, parce que... il y a un nouveau bâtiment d'oncologie. Et il est tout neuf et nous nous sentons bien dans cet hôpital. Les locaux sont modernes. On y trouve sur place différentes prises en charge possibles, les nouvelles thérapies, la radiothérapie, la chirurgie, la chimio et bien d'autres. Et l'équipe est extra. Ce sont des personnes compétentes et investies. Elles sont très présentes. Elles sont à l'écoute du malade. Elles sont à l'écoute du malade et de ses besoins. C'est une équipe pluridisciplinaire. Et puis, donc, il y a une prise en charge complète des personnes, enfin des patients, hein, par le personnel soignant.
Et de toute façon, je pense que l'intervention d'ICEM, elle n'a de sens et elle n'est utile et elle n'est efficace que s'il y a cette complémentarité entre Exactement. Les soins médicaux et puis... les soins d'ICEM.
Exactement.
Et le plus, excusez-moi juste que je rajoute, c'est que j'ai eu beaucoup de témoignages aussi de patients où ça les réconforte des fois que nous, on arrive et on leur dit quel est le patient qui en a le plus besoin, qu'ils se sentent écoutés aussi dans un moment plus dur et qu'on prenne la relève pour aller apaiser le patient. Ils se sentent vraiment... voilà, c'est pas juste un bien-être aussi pour le patient, ils sont réconfortés, ils sont contents quand on arrive dans le service.
Alors, vous évoquiez tout à l'heure la présence d'une psychologue dans votre association.
Oui.
Ma question, c'est tout ce monde-là, toute cette équipe d'ICEM, bénévoles et salariés ou intervenants professionnels, comment vous arrivez à garder du lien, à communiquer en interne, et puis peut-être parfois trouver aussi une écoute active de la part de vos équipes pour peut-être se décharger d'une situation, décharger émotionnellement, j'entends, d'une situation ou de justement de compléter votre intervention avec celle d'une autre collègue.
Bien sûr. Nous avons mis en place depuis un certain temps, mensuellement, une réunion d'équipe avec les thérapeutes et les bénévoles de support, avec la psychologue. Et là, il se passe un débriefing pendant 2 heures où si nous avons rencontré un moment délicat, nous pouvons en parler et en débriefer avec en équipe, en fait, en synergie. Hein, on se soutient les uns et les unes ensemble.
On se donne beaucoup de conseils aussi entre nous. La psychologue nous permet vraiment de nous guider, des fois de nous donner des
un thème
pour savoir faire devant certaines, parce qu'on a des questions très difficiles des fois. Pour des patients qui nous disent et à quoi bon votre soin ou des choses comme ça ou qui nous donnent beaucoup de, ils nous parlent de choses très personnelles et intimes et on ne
et
doit
qu'est-ce
pas,
que je fais de cette information là
la psychologue nous aide beaucoup pour nous apprendre vraiment les différentes astuces pour rester dans l'écoute active et bienveillante en fait. Et ça nous permet aussi d'évacuer une émotion parce qu'on s'attache aussi aux gens, on est dans l'échange, le partage. Et voilà, dans nos réunions de partage, c'est quelque chose de très très important.
Très important.
On les attend tous à chaque fois à ce moment-là parce que déjà on se voit, on communique, on partage et chacune elle donne ses astuces même dans le travail.
Vous arrivez à vous retrouver, réunir régulièrement tous ensemble ?
Alors c'est un petit peu compliqué, oui c'est un peu compliqué, on va essayer, hein. C'est un de nos challenges justement, c'est de pratiquer, de se rencontrer autre part qu'à l'hôpital, là en janvier prochain pour la galette par exemple. Voilà, ce que j'ai envie d'installer, c'est des réunions d'équipe, mais en dehors de l'hôpital, pour discuter de la vie de l'association, mais pas que. Hein, pour discuter aussi de nos vies respectives et puis de partager ensemble la galette des rois, par exemple, hein, un moment convivial.
Je vous propose de poursuivre notre conversation juste après avoir écouté UB40, Falling With Love With You sur IDFM Radio Anguin. À tout de suite.
Wise men say only fools rush in, and I ain't here falling in love with you.
Vous êtes toujours dans l'émission La Parole aux associations avec Nadia Nafti et Inda Hamza de l'association ISEM. Alors, pendant la pause musicale, Nadia, vous vouliez revenir sur un témoignage d'une patiente en sophrologie.
Oh, c'est un exemple, hein. Nous avons beaucoup de témoignages des malades dans tout corps de métier. Mais oui, je me souviens en fait de cette dame on lui avait annoncé un cancer et pendant 15 jours, elle ne pouvait pas le dire, ni à son mari, ni à sa famille. Après avoir pratiqué une séance de sophrologie, elle a beaucoup pleuré et là, ça a libéré la parole. Et elle m'a dit, je suis prête, je me sens prête à en parler. Et ça m'a beaucoup émue.
On sent dans vos témoignages vous y allez tout en douceur, en
finesse,
en délicatesse.
Exactement.
Et surtout que vous vous adaptez à la disposition d'esprit des personnes, quoi.
Exactement.
En fonction de je suis prêt.
Avec beaucoup de bienveillance. Et ça fait partie de notre formation. Hein.
Alors, on va parler d'une autre réalité très concrète. Nadia, en préparant cette émission, vous souhaitiez revenir sur les financements de l'association qui doit faire face à une demande toujours plus importante. Hein. On voit bien qu'il y a une forte demande et tout simplement parce que ça marche. Quand vous intervenez concrètement et c'est utile, mais avec des financements malheureusement qui sont de plus en plus contraints. C'est quoi les plus grandes dépenses de l'association ?
Les plus grandes dépenses, c'est bien sûr les salaires des thérapeutes. Hein, ça, c'est la plus grande dépense. Mais nous avons aussi les assurances. Nous avons aussi toutes les charges administratives de l'association. Et bien sûr, ce besoin grandissant, parce que en 2015, l'ARS nous subventionnait. Il y avait 4 socio-esthéticiennes.
ARS, Agence Régionale de la Santé.
Exactement. Et maintenant, nous en reste 2. Hein, donc elles sont formidables, nous voulons les garder. Hein, donc nous avons besoin de soutien financier.
Vous savez pour quelle raison l'ARS a supprimé vos financements ?
Pas trop, non. Non, je dois les rencontrer en janvier prochain. Je sais qu'il y a eu un remaniement au niveau de l'ARS et que beaucoup d'associations ont vu fondre comme neige au soleil leur subvention. Mais nous, c'était vraiment primordial.
Alors, vous financez comment votre activité ?
Par des donateurs. Merci beaucoup, nos donateurs. Nous avons donc des sociétés privées, des mairies, des collectivités qui nous subventionnent. Et puis, nous avons aussi un partenariat professionnel. C'est-à-dire que, par exemple, la mairie d'Anguin nous met à disposition une personne pour nous aider à relooker nos flyers.
D'accord, donc c'est du mécénat de compétences.
Du mécénat de compétences, exactement. Et nous avons aussi L'Oréal qui nous subventionne financièrement et à côté de cela, hein, qui nous met à disposition des produits adaptés aux peaux des malades atteints d'un cancer.
Et alors, quelle est votre stratégie là ? Parce qu'il vous manque combien et, ou alors, à quel financeur vous voulez aller taper aux portes ? Qui est-ce que vous voulez interpeller ?
Oui, mais il y a déjà les entreprises privées, hein, si elles peuvent nous entendre et puis nous aider, nous contacter de toutes les manières possibles. Il y a le côté financier bien sûr, mais à côté peut-être le mécénat de compétences. Il y a aussi une personne lambda qui nous écoute et qui a envie de faire un don à l'association. Nous avons aussi besoin de bénévoles de lecture, de support pour aller dans les chambres des malades. Nous avons vraiment besoin, si les auditeurs nous écoutent, nous avons besoin d'aide. Aidez-nous à continuer cette belle association, tout ce que nous faisons pour les malades.
Financièrement, humainement, logistiquement, toute aide.
Exactement, toute aide est la bienvenue.
Toute aide est bienvenue.
Exactement.
Pour pérenniser l'action de l'association et pouvoir voir beaucoup plus de patients parce que, à l'hôpital d'Argenteuil, il y a vraiment des milliers de patients. C'est un grand hôpital, il y a différents services spécialisés dans la cancérologie. Et du coup, on n'arrive pas à voir tout le monde et à offrir ce soin à tout le monde.
Et vous êtes obligé de refuser ou en tout cas de reporter des rendez-vous ? Vous arrivez
mais
aujourd'hui ?
Oui, bien sûr. Hein, nous ne sommes pas assez nombreuses. Et je dois dire aussi, puisqu'on parle du côté financier, c'est que le salaire des thérapeutes, des socio-esthéticiennes, la musicothérapeute, c'est vraiment pas énorme, mais du tout. Hein. C'est, nous avons beaucoup de chance de les avoir et qu'elles acceptent de continuer au salaire où elles sont payées.
Et alors, comment on peut vous contacter ?
Alors, vous pouvez nous contacter déjà. Nous avons un site, ism2ceme.fr. Sur ce site, il y a la rubrique « Nous contacter ». Donc la personne peut envoyer un mail, remplir le formulaire. Nous avons le téléphone de l'association 07 50 60 48 32. Vous pouvez aussi envoyer un courrier, un don aussi, toujours à l'ordre de ICEM. L'adresse 22 rue du Buffet, 9500 Argenteuil. Nous avons aussi un Facebook. Alors, qui n'est pas encore à jour, hein, bien sûr.
Mais il va l'être.
Il va l'être, bah, peut-être avec des personnes qui vont se présenter. Et le site ICEM aussi. Et il est très bien, mais voilà, il y a encore des choses à améliorer. Et nous, c'est là où nous avons besoin de compétences aussi.
Merci beaucoup, Nadia, Inda, de nous avoir présenté votre association avec autant d'implication et de conviction. Est-ce qu'avant de se quitter, je crois que vous êtes venue avec des témoignages de patients. Est-ce que vous pourriez, Inda, nous en lire un ou deux?
Alors, j'ai pris différents passages de témoignages, surtout où je voulais dire que souvent, les mots qui reviennent par les gens, par les patients qui ont bénéficié des soins, qu'ils retrouvent vraiment beaucoup de réconfort. Tous les patients toujours notent à la fin qu'ils souhaitent que cette initiative se développe, se pérennise. Donc, une dame en HDJ aussi qui avait dit quelque chose d'assez vrai, où qu'elle a eu la surprise d'avoir ce soin proposé et qu'à côté de la médecine, elle appelle la médecine du corps, il y a ce supplément d'âme, elle dit, et de nous permettre ce moment de détente, de reconnaissance de nos souffrances, des souffrances qu'on endure. Et que durant la séance, voilà, c'est vraiment... Tous les patients redisent que c'est un bien-être tant moral, psychique, mental et physique. Certaines voilà, voient leur visage lumineux alors qu'elles ne s'y attendent pas. Beaucoup de personnes vraiment s'imaginent ailleurs. Se voient, un monsieur une fois m'a dit « je vois vraiment l'arrêt en dessous de la table du massage » alors que c'était le lit de soin. Il était très ému, il avait refusé peut-être 10 fois le soin. Et le jour où il a accepté, c'était vraiment, j'oublierai jamais ses larmes, mais des larmes de joie, de reconnaissance et voilà.
Est-ce que vous voulez compléter par d'autres témoignages, Nadia? Je crois que vous avez aussi des paroles.
Oui, c'est toujours très profond, en fait, lorsque l'on voit une personne se redresser, lorsqu'on voit une personne qui recommence à avoir le goût de la vie et à y croire, en fait. Hein. Et c'est toujours très, très émouvant, hein, tous ces échanges que nous avons. Autant pour les bénévoles de support dans les chambres des malades et autant... pour les thérapeutes, nous sommes en fait une équipe de savoir-être et nous sommes en synergie les unes avec les autres et pour le bien-être des malades.
Nadia, Inda, j'ai été ravie de partager cette heure avec vous. Je vous souhaite le développement que vous espérez pour ICEM. Bravo et merci pour votre engagement quotidien et tellement utile. Un grand merci également à Philippe qui assure la technique de l'émission. Je vous rappelle que si vous souhaitez participer à la parole aux associations, il vous suffit de nous contacter à l'adresse mail suivante contact@csa95.com. C'était Audrey Lamolie sur IDFM Radio Anguin. Je vous donne rendez-vous en janvier. D'ici là, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes et une très belle fin d'année. À bientôt.
Bientôt, bonne fête.
À bientôt, belle fête.
Se faire la belle, se faire la main. Faire le mur, se mettre au bain. Je n'en reviens pas. Servez de courage et envoyez passer les années, tournant brisées, les fleurs fanées. Sauver ma peau, sauver ma peau. Émettre les voiles quand les larmes sonnent l'alarme. Prendre le large et sauver ma peau, sauver ma peau. Se mettre en cap.
confort. Je ne veux pas celui qui blesse, celui qui vous jette à terre, celui qui vous traîne en l'air. Je t'en veux mon héroïne, mon enfer, ma ventoline, où te sait le bonheur en vitrine et des rayons vides qui laminent. Peau de vache, peau de chagrin, mais demain je serai loin.
Radio Anguin vous souhaite de bonnes fêtes.
Bonnes fêtes.
Samedi 12 et dimanche 13 janvier 2019.
À la Gaza, dit au Bobolo Gorsu, d'ici les Moulineaux, 51 rue du Général Leclerc.
L'association La Cour des Miracles en Oc organise, avec le concours d'IDFM Radio Anguin,
un stage de polyphonie corse animé par Nadine Cesard.
Ce stage est ouvert aux chanteurs débutants et confirmés.
Pour vous inscrire, cesarinadine@yahoo.fr ou 06 71 86 34 46.
06 71 86 34 46.
Bonjour, c'est Chantal Goya. Je vous retrouve le samedi 22 décembre entre 7h et 9h du matin sur Radio Anguin. Nous parlerons du spectacle Souliers qui volent. Alors à samedi dans l'émission Casse-Noisette. Bonne fête de Noël.
Jacques Bessé et Sandra vous accueillent tous les dimanches matins de 9h30 à 12h pour accordéon autour du lac. Vos dédicaces sont les bienvenues au 03 44 27 86 86. Accordéon autour du lac sur IDFM 98 Radio Anguin Île-de-France. Et retrouvez-nous sur internet idfm98.fr.
Plaisir du partage, espoir d'un monde meilleur.
Jeudi 20, lundi 24, mardi 25 décembre, 16h.
Concert de Noël sur IDFM Radio Anguin.
Diversité d'instruments, chants traditionnels, chœurs, cantiques, oratorios.
Airs célèbres et emblématiques.
Un rendez-vous à ne pas manquer
avec Marie-Thérèse Pfeiffer,
Bernard Ventre, jeudi 20, lundi 24
et Christophe Gravereau, mardi 25 décembre.
Optique Bardin fête ses 30 ans avec vous. Dans notre magasin au cœur d'Anguin, face au manège, tout est organisé pour satisfaire nos clients. Nous savons être à votre écoute et mettons à votre disposition notre savoir technique et aussi nos conseils esthétiques. Notre priorité, vous présenter une large gamme de qualités avec des montures de fabrication française. Vous découvrirez une sélection de produits high-tech colorés, classiques ou originaux qui répondront à toutes vos attentes. Laissez-vous guider par notre expérience. Dans un cadre sympathique, Optique Bardin s'occupe de vous. Suivi du dossier mutuel, sans oublier l'essentiel, vos yeux. Poussez la porte du magasin Optique Bardin, comme le font nos clients depuis 30 ans. Vous trouverez forcément des lunettes de vue ou solaires pour vous. Un cadeau vous y attend, momystère à donner, monocle. Optique Bardin, 41 rue du Général de Gaulle, face au manège, à Anguin-les-Bains, ouvert du mardi au samedi.